Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le collectif s'appelle Vive l'APL. La manifestation, ce jour-là, réunit plusieurs centaines de personnes, entre 1000 et 2000 selon les organisateurs et 700 selon la police, à l'appel de ce jeune collectif et de l'intersyndicale du logement, de la place du Palais-Royal jusqu'à l'Assemblée nationale, en gros, de la rive droite à la rive gauche. Tous protestent déjà depuis plusieurs mois contre une mesure à la fois symbolique et bien concrète du nouveau gouvernement. La baisse par décret de l'allocation personnalisée au logement de 5 euros, avec pour objectif de faire 1,5 milliard d'euros d'économies dès 2018. La mesure est entrée en vigueur dès le mois de septembre. Pas de temps perdu, la France est une start-up, ne l'oublions pas. Mais si 5 euros par mois pour certains, c'est une somme négligeable, voire invisible, pour de nombreuses autres personnes, 5 euros, c'est un repas, des céréales, du poulet, du pain, du lait, une somme, pas rien. D'ailleurs, selon un sondage BVA réalisé en octobre pour l'Union sociale pour l'habitat, près de 7 Français sur 10 déclaraient soutenir la campagne Vive l'APL. La mesure est donc largement perçue comme une injustice, une façon de faire des économies sur le dos des plus démunis et aussi une forme d'aveuglement de la part de ceux qui s'imaginent qu'une somme de 5 euros passerait inaperçue. À l'heure où les prix de l'immobilier atteignent des records dans les grandes villes et où l'encadrement des loyers prévus par la loi Allure a été annulé par le tribunal administratif le 28 novembre dernier, ça n'est pas le moment d'être pauvre et sans logis. Aujourd'hui pourtant, quelques manifestants racontent à Rémi Douate leur galère de logement et comment ils s'en sortent ou pas, histoire avant les fêtes de se faire un petit retour au réel, d'avoir les pieds sur terre sur France Culture jusqu'à 14h.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, madame ?
Moi, pour mon cas, je vis avec ma mère, mes deux petites sœurs, mon petit frère et ma nièce. On s'est fait expulser de notre appartement en 2013. En fait, on a perdu mon père, il était en fin de vie, et on payait tout ce qui était médical, etc. Du coup, ma mère, pendant une période, pendant 5-6 mois, elle n'a pas payé son loyer. Elle s'est fait convoquer. À partir de ce moment-là, donc mon père est décédé, elle s'est remise à payer le loyer petit à petit. Donc elle payait le loyer, mais en même temps, elle payait une petite dette. Tous les mois, elle comblait 300 euros de plus. Donc en 6-7 mois, normalement, ça pouvait faire le coup. Et ben non, ils ne nous ont pas laissé le choix. Ils sont venus. Il nous restait que 3 mois pour combler ces 2000 euros, donc la dette. Ils n'ont pas été, tolérants, donc voilà. On s'est fait expulser de notre appartement en 2013. Donc quand ils sont venus nous expulser, le commissaire a commencé à hurler, à dire qu'on avait envoyé chier ces gars, alors que c'était pas du tout le cas. Moi, une fois que j'ai entendu le cassage de porte, je me suis tout de suite effondrée. J'ai pleuré, j'étais pas bien. Tout ce que je voulais, c'était pas sortir. Comme par hasard, j'ai fait une crise d'épilepsie. En faisant la crise d'épilepsie, ça les a aidés, avec les pompiers, à me sortir de l'appartement, etc. Donc, qui disait, moi, crise d'épilepsie, ça a aussi mis ma mère en péril. Donc, elle a fait une crise de diabète. Une crise de diabète qui a... Bon, en fait, ça a dégénéré. Hein. On s'est retrouvés avec plus le SAMU et les pompiers dans la baraque que les forces de l'ordre. Une fois que nous, on a été rapatriés à l'hôpital, il restait mes deux petites sœurs, ma nièce et mon petit frère. Du coup, voilà, ils ont pris du temps à nous faire sortir. Ils ont réussi à nous faire sortir. On est sortis, on s'est retrouvés à la rue. Et plus de moyens parce qu'on faisait que d'appeler le 115 qui nous relogeait pas, qui nous disait, qui nous enverrait des messages pour nous reloger. Mais en fin de compte, il nous envoie des messages pour nous dire qu'il n'y a pas d'hébergement pour nous. À partir de ce moment-là, on était entre des amis, chez de la famille. Ça ne pouvait plus continuer comme ça parce que mon petit frère était scolarisé. Parfois, il était beaucoup plus loin que son école. Du coup, il s'est fait suivre par des éducatrices qui ont demandé le placement. Donc c'était encore plus rude pour nous. On s'est retrouvés à se battre pour un logement et à se battre aussi pour notre petit frère et le fils de ma mère. Mais heureusement qu'il avait des bons résultats, etc. Ils n'ont pas réussi à le prendre, ils ne l'ont pas pris. Mais on se bat encore aujourd'hui, en 2017, pour cette procédure en fait. À partir de ce moment-là, on essaye de sortir un peu les économies qu'on a pu mettre de côté, payer une chambre d'hôtel, essayer d'aller demander une assistante sociale pour avoir des aides, etc. Parce qu'on ne peut plus vivre comme ça avec des enfants scolarisés. Et moi, j'avais une voiture. J'avais une voiture et au fur et à mesure du temps, en fait, c'était difficile de payer des hôtels à 50 euros la nuit. Alors à partir de ce moment-là, on s'est décidé de crécher dans la voiture. Donc derrière, il y avait les deux petits avec ma mère et une de mes sœurs. Et devant, il y avait ma sœur et moi. Donc on couchait les sièges, on avait acheté des plaids, on avait récupéré un peu de nos couvertures dues à l'expulsion. Toutes nos valises étaient dans le coffre. Le petit, avec le froid, parfois, il faisait pipi sur lui. Donc dans une voiture, faire pipi et en plus, on n'a pas où se doucher le lendemain, c'est atroce. La petite, pareil, il fallait échanger les couches, etc. dans la voiture. Mais quand il faisait froid, il fallait éviter de lui mettre les fesses à l'air. Et pour faire pareil, pour faire les insulines de ma mère, etc. C'était dégueulasse, excusez-moi du terme. Il n'y avait pas d'hygiène, on n'était pas... Il n'y avait rien qui était... ça pouvait que aggraver les cas, en fait. Il n'y avait rien qui était stérile, C'était des microbes sur des microbes.
Vous êtes resté combien de temps dans la voiture ?
6 mois. 6 mois, le dire par la bouche, c'est rapide. Mais de le vivre... C'est pas croyable. Mais en fait, Gatay, elle reste pas 6 minutes parce que je l'ai battue après. C'est ma mère.
Bonjour madame. Vous étiez là, vous madame, à ce moment-là, donc dans la voiture. Comment ça se passait pour vous, madame ?
On n'avait pas le choix. Il fallait se serrer entre nous. La petite qui a 2 ans, elle dormait même pas parce que vous savez, il y a de la lumière. Il fallait que je mette une couverture sur elle pour avoir le sommeil. Parce qu'il fallait qu'elle ne voit pas les lumières. Parce que, vous savez, et à savoir où on se gare. Tous les jours, on se gare dans un endroit.
Pourquoi vous changez d'endroit tous les jours ?
On a été agressés, ils m'ont cassé le nez. Pendant 4 jours, j'étais à l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu. Il y avait mes filles qui dormaient comme ça et leur sac sur eux. Ceux qui nous ont agressés, ils pensaient qu'on était des touristes ou je sais pas. Et voilà, on était chargés, il y avait la valise, les valises, il y avait tout. Il y avait nos sacs, nos papiers, tout. Voilà. Et obligé qu'on change d'endroit parce que peut-être, je sais pas, des fois on stationne, on se gare devant un commissariat, à côté du commissariat, des fois à côté d'un parking, là où il y a les agents. Ça dépend, voilà.
Au moment où vous avez été expulsé, vous aviez un boulot ?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous empêchait d'aller dans le privé ?
Le privé, il demande 3 fois loyer. D'accord ? Si le loyer, il est à 900 euros, il me faut 3 fois 900 euros. D'accord ? Ouais. Moi, je touchais 1200.
Même moi, je travaillais à ce moment-là, je travaillais dans une boulangerie. Mais on pouvait plus continuer comme ça parce qu'on n'avait pas de stabilité, en fait. Vous imaginez bien que de crécher dans une voiture, ça va 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais au bout d'un moment, il faut se laver, il faut bien manger, il faut bien dormir pour pouvoir continuer à travailler, etc. On avait tout perdu, alors il restait que le boulot à perdre.
On a galéré, je ne vous mens pas. Mais là, ce qui me touche vraiment, c'est le placement de mon fils. Ils veulent m'enforcer, ils veulent me briser, ils veulent... Et moi, voilà.
Après, qui veut placer votre fils, madame ?
C'est la juge qui veut placer mon fils. Parce que mon fils, comme il était malade, il ne se concentre pas à l'école. Ce qui fait qu'il avait une éducatrice. Moi, j'ai dit, moi, j'ai 7 enfants, je les ai élevés. Ils sont grands, ils ont tous leur bac. Nina, on était tous les 3 jours, je vous parle en 2012, 2010 et 2011, on était tous les 3 jours dans un département. Et elle a eu son bac.
Un département différent.
Voilà. Des fois 77, des fois 78, des fois 95. Et elle a eu son bac. Avec mon sang, très bien. Et les autres aussi, Nesrine, elle a eu son bac aussi, Natacha. Et là, franchement, ils veulent me briser. S'ils placent mon fils, je vois pas pourquoi.
La raison, c'est que vous n'êtes pas dans un logement stable ?
Voilà, la raison, c'est qu'on n'est pas dans un logement stable et apparemment, on met la vie d'un enfant, donc de notre petit frère, en péril. Mais avant de parler de nous, en fait, c'est l'État qui a mis notre vie en péril. Vous comprenez ? Nous-mêmes, on est en péril. Voilà, c'est une situation très précaire, donc on ne peut pas lui accorder une meilleure des situations au petit, puisqu'il vit avec nous. Alors, elle nous a dit que c'était être égoïste de laisser le petit batailler comme ça. Mais je pense que ce serait plus perturbateur pour lui de le retirer de sa famille, déjà qu'il est en situation précaire. Si en plus, on l'éloigne de nous, Là, mon petit frère, il est arrivé à un stade, à 10 ans, il me disait, la France, elle ne veut pas te donner d'appartement. Bah, dans ce cas-là, je vais aller vendre de la drogue et je vais aller faire guetteur et je vais avoir 50 euros par jour. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est nous qui lui avons mis ça dans la tête? C'est pas nous. C'est le fonctionnement d'aujourd'hui. C'est les droits qui ne sont pas appliqués. C'est les devoirs qui ne sont pas faits. Je me dis honte à l'État, en fait.
Mais vous, actuellement, vous vivez où?
Bah là, actuellement, je suis avec ma mère, toute ma famille. On est à l'hôtel de Villejuif. C'est un hôtel qui travaille avec l'État. On est à 5 dans une chambre de 12 mètres carrés. C'est difficile, on ne peut pas faire à manger, etc. Mais déjà, on se contente du peu qu'on a, parce que c'est toujours mieux qu'une voiture. Hein. Et moi, on perd pas espoir. On sait que comme de la voiture, on est passé à ce relogement, on pourrait passer de ce relogement à mieux et de mieux encore. Déjà, on a des lits, on est au chaud.
Vous travaillez, vous ?
Oui. Alors, moi, j'ai passé des concours en APJA. C'est pour devenir gendarme. Et du coup, voilà, j'ai quelques années d'expérience en faculté de droit. Et là, je suis en attente de rentrer en caserne.
Macron, le maire, c'est pas les APL, ni les aides à la pierre, c'est les loyers qu'il faut baisser, c'est les loyers qu'il faut baisser, il baisse l'APL, on va être expulsé, on ira se loger,
à l'Élysée,
on ira se loger,
à l'Élysée,
on ira se loger.
France Culture, les pieds sur terre.
Macron, les heures, les fêtes à payer les riches et les actionnaires, payez les locataires.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui madame?
Écoutez, aujourd'hui je suis là déjà premièrement pour la PL qui a baissé et deuxièmement pour avoir un appartement. Ça fait exactement 18 ans que j'ai fait la demande à la mairie et je n'ai jamais obtenu aucune réponse, ni une proposition. J'habite dans une chambre que je paye 700 euros par mois. Je n'ai même pas une cuisine. C'est même pas séparé. Vous rentrez à le couloir, une kitchenette et une pièce. Vous trouvez que c'est admissible, ça? Et là, donc, ce que je suis en train de dire, je suis en train de combattre, c'est surtout pour mes enfants qui n'ont pas connu le bonheur d'avoir une chambre, le bonheur et le plaisir d'inviter leurs copines à la maison, que serait-ce pour un anniversaire ou pour une soirée pyjama.
Vous vivez à combien dans cet appartement?
Trois. Moi et mes deux filles. La dernière, elle a 18 ans et la grande, elle a 25 ans. Il n'y a pas l'intimité, il n'y a pas le respect. Donc, on n'arrive pas... Même ma fille, quand elle faisait ses devoirs, je vous jure, elle se fermait dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il y a les toilettes. Elles sont fermées là-bas pour faire ses devoirs tranquilles. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas acheté la télé à cause d'eux pour ne pas les perturber dans leurs devoirs.
Elles font des études?
Elles arrivent quand même, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que moi, quand je travaillais à l'hôtel, je voulais dormir de bonne heure parce que je partais à 6 heures du matin. Donc, on n'avait pas, vous avez le rythme, il n'était pas installé. On n'avait pas de chambre, on n'était pas à l'aise. Il n'y avait pas le rythme d'une famille, c'est-à-dire confortable. Une pièce pour trois personnes, c'est inadmissible. Et ça fait 18 ans que j'ai fait la demande à la mairie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec tous les courriers que j'ai envoyés, je n'ai reçu aucune réponse. Aucune réponse, aucune proposition.
En 18 ans?
En 18 ans, oui. Et je vous jure, j'ai écrit à M. le maire, j'ai écrit même à l'époque à Mme Chirac, à M. Mitterrand. Je n'ai rien reçu. Rien, aucune proposition, malheureusement. Je vais vous montrer les photos de ma chambre et vous allez voir. Vous allez voir. Comme c'est malheureux. Regardez. Il y a deux matelas. Le matelas, je mets... Un matelas et l'autre, il est au-dessus. Et il y a le banc. Là, moi, je dors sur le banc. Et les filles, le soir, elles les posent par terre pour dormir sur les matelas. Et il y a la table. Comment vous voulez-vous? Je ne peux même pas bouger. J'ai même pas acheté des meubles. Je ne me fais même pas plaisir. Pourquoi? Parce que les mettent où? Même une machine à laver, je ne l'ai pas. Je vous jure, je ne l'ai pas. Voilà. C'est ça ma vie, malheureusement. J'ai fait appel au service d'hygiène. Ils sont déjà venus une fois, ils ont mis l'appareil, ils ont trouvé 99%. Ils ont convoqué mon nom.
99%
d'humidité. Ils ont convoqué le propriétaire, il est décédé. Que bon Dieu repose son âme maintenant, il habite à Cannes. Ils l'ont convoqué, il est venu, je me rappelle, il m'a dit « Pourquoi tu m'as fait ces misères ?» Je dis « Monsieur Barbon, c'est pas moi qui vous avez fait les misères, c'est votre agence. » Quand je suis partie les voir, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Il a fait les travaux et c'est ressorti l'humidité. Regardez. Regardez, monsieur, l'humidité. Regardez, monsieur, où j'habite. Vous avez vu? Ça, c'est le parquet, monsieur. Ça, c'est la salle de bain et ça, c'est la chambre.
Donc, le parquet est tout noir, les murs aussi. Le parquet se détache sous l'humidité, en fait, c'est ça?
Voilà. Voilà. C'est là où je vis. Regardez. C'est là, ça, c'est l'entrée. Hein. Regardez. Un taudis.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Pour l'instant, je suis au chômage. J'étais gouvernante dans un hôtel 4 étoiles. Je suis auxiliaire de vie scolaire. Je travaille avec les enfants handicapés. J'ai beaucoup donné, mais moi, je n'ai rien reçu.
Donc, vous touchez les APL? Vous touchez les APL?
Oui, et moi, je ne touche même pas 256 euros, monsieur. Je ne touche même pas. Dommage, j'ai laissé la lettre à la maison. Je ne touche même pas 250 euros. Ils ont réduit l'APL de 5 euros. Moi, pour moi, 5 euros, ça compte beaucoup. Je peux acheter du lait, je peux acheter du pain, je peux acheter du poisson pour manger avec. 5 euros, c'est énorme pour moi. Moi qui touche 500 euros, je suis déjà au chômage, je touche 500 euros. Je n'ai rien, c'est malheureux. À chaque fois, je me dis mon bonheur. Mais c'est trop beau y croire, c'est le jour que j'ai un appartement où je pourrais avoir une chambre, je pourrais avoir une cuisine à part, préparer mes petits repas, recevoir ma famille. Or, je n'ai pas ce plaisir, moi. J'aime bien aller surtout chez ma famille sortir. Des fois, quand je pars chez moi, je reste 2-3 mois dans mon pays, juste pour ne pas retourner dans une chambre.
C'est où votre pays?
Algérie.
Pourquoi vous n'essayez pas de changer d'appartement?
Parce que je n'ai pas les moyens. Vous savez que maintenant, quand vous allez pour changer d'appartement, l'agence, qu'est-ce qu'il vous demande? Les fiches de paye, il faut qu'ils soient gonflés, trois fois le salaire du loyer, un garant. D'où je vais ramener moi 2000 euros ou 1500 euros. J'ai même pas la santé d'aller travailler maintenant. Le jour que j'aurai un appartement, à ce moment-là, je vais leur dire, pensez-moi, peut-être que je suis en train de rêver, hein, je suis encore en train de rêver, parce que je suis optimiste. Ce rêve-là, ce jour-là, c'est quand qu'il va se réaliser, je ne sais pas. C'est trop beau pour y croire. Et j'y crois, et je suis en train de lutter avec le droit au logement, juste pour avoir un appartement, pour vivre, c'est-à-dire, comment dirais-je, ma vie tranquille.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Pourquoi vous venez aujourd'hui, monsieur?
Je suis venu parce que je suis solidaire du mouvement. Donc déjà pour les APL, mon APL qui existait déjà depuis longtemps, mais en fin de compte, j'ai eu la chance de pouvoir grandir à Paris. Je suis fils unique et vivant seul avec ma mère. Et donc pendant très longtemps, on a eu le malheur de vivre, on va pas dire dans des squats, mais des logements très très modestes et voire même être expulsés de temps en temps. Et je m'en rappelle, on vivait dans le 5e arrondissement et 3-4 fois on s'est fait expulser, une fois pour la gale, une fois pour une démolition, une fois par le propriétaire. Donc voilà, on était quand même précaire jusqu'au jour où elle est rentrée dans la fonction publique et qu'on a eu le droit au logement, aux HLM de Paris dans le 13e arrondissement. Et donc on a eu la chance de pouvoir avoir à l'époque un 30 mètres carrés pour 80 francs français. Et je pense que sans ça, j'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui.
C'est quoi votre vie aujourd'hui?
Eh ben maintenant je suis propriétaire, j'ai une famille de 5 enfants, je vis confortablement en province. Donc j'ai choisi de quitter Paris justement parce que ces problèmes de loyer qui devenaient exorbitants dans Paris ne pouvaient pas me donner la chance de donner l'avenir que je voulais pour ma famille. Donc on a quitté Paris en 89, mais j'estime que bah voilà, il y a des gens qui méritent et qui pourraient donc bénéficier de, on va dire, de ce côté solidaire de la République, qui permet à chacun d'avoir un logement décent. Donc là, je vois tous ces gens qui sont dans le désarroi, qui la plupart travaillent et à qui on ne donne pas un logement décent sous prétexte qu'ils n'ont pas assez d'argent. J'ai envie de dire, marre à la spéculation du logement. Il y a une partie de la population qui fait du fric sur le dos des autres. Hein, c'est triste à dire, mais c'est vrai. J'ai un enfant qui est grand maintenant, qui a 21 ans, qui fait ses études sur Paris. Et l'an dernier, il s'est retrouvé à la rue. Il a dormi à droite, à gauche pendant presque 3 mois. Alors heureusement, dans les universités, ils sont un peu solidaires. Mais il lui est arrivé régulièrement de dormir dans des halls d'entrée. Voilà.
Vous le saviez ?
Je l'ai appris 3 semaines après, qu'ils finissent par me le dire et tout. Parce que je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un quartier où on était, je veux dire, solidaire. Plus solidaire que déjà qu'aujourd'hui. 30 ans en arrière, la solidarité n'est plus du tout la même. Et puis maintenant, il y a un peu la haine des gens. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont haineux les uns envers les autres. Toujours à dire oui, celui-là bosse pas, celui-là fait pas l'effort et tout, sans savoir réellement dans quelle situation se trouvent les gens.
Et vous êtes venu de...
Spécialement pour ça, ouais. Ouais. Donc j'habite à côté de la frontière belge, donc là je viens de faire 200 km et je vais refaire 200 km ce soir. Alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde, ça c'est un peu dommage. Je crois que... À chaque fois, les partis politiques se désintéressent réellement du fond des choses, c'est-à-dire, ben voilà, déjà, le minimum, avoir droit à un travail et à un logement. Et alors, généralement, on entend les gens qui n'ont pas de travail ne peuvent pas avoir de logement, et ceux qui n'ont pas de logement ne peuvent pas avoir de travail. Donc, c'est carrément absurde, quoi.
Faut accélérer, là.
Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur ?
Bah, actuellement, j'ai des galères de logement. C'est très difficile pour moi pour trouver un logement.
Comment ça a commencé, ces difficultés ?
J'y vais avec ma grand-mère dans le 11e arrondissement. On avait un 4 pièces, un appartement spacieux. Et puis ma grand-mère, elle commençait à être en fin de vie, donc elle avait des troubles mentaux. Et on a eu une voisine qui a fait des lettres, des courriers au maire pour dire qu'on faisait des nuisances sonores. Donc elle nous a harcelé continuellement, elle a inventé toute une histoire sur notre compte, alors que nous, on était des citoyens convenables, on payait notre loyer. Et on s'est retrouvé que bah, elle a eu gain de cause après un jugement. Le maire a pris part et on a eu donc une expulsion. Et suite à ça, s'est trouvé qu'on est parti quand on était à la rue chez ma mère pour qu'elle nous héberge. Et on était 7 dans un 3 pièces. L'ambiance était tendue dans la famille. Suite à ça, j'ai eu des histoires avec mon frère, on s'est battu. Parce qu'un matin, j'allais au travail, il n'était pas de bonne humeur. Ça s'est terminé par des coups de couteau suite à ce problème. Je me suis fait hospitaliser, je me suis retrouvé à l'hôpital Dieu. J'étais en mandat de dépôt à la santé, donc avec les cicatrices, un bras avec une attelle à la santé, en prison. C'était très difficile. J'ai connu vraiment 4 mois vraiment très durs. Je me suis fait agresser plein de fois. Quand mon dossier a été jugé par les avocats et le juge, ils ont aperçu qu'ils avaient commis une erreur de jugement, donc ils m'ont relâché parce qu'ils ont vu que j'étais la victime. Et là, je me suis retrouvé à la rue parce que ma famille ne voulait plus m'héberger suite à ce problème. Donc j'étais au 115 pendant 2 ans dans le froid, à rebondir sur des hébergements d'urgence, des hôtels où on ne peut pas cuisiner, vraiment très difficile. Donc suite à ça, j'ai fait une demande d'allô. C'est pour reloger les personnes qui sont SDF dans l'urgence. Et j'ai été reconnu prioritaire, mais au bout de 6 mois, je n'ai toujours pas été relogé. Donc je faisais des logements en logement, il n'y avait aucune stabilité. Et il s'est trouvé que, bon, bah, qu'entre-temps, j'avais fait une demande à Adoma.
Adoma, c'est des foyers, c'est ça ?
C'est des foyers, voilà, pour les jeunes travailleurs, pour les réfugiés politiques, pour tous les problèmes, les cas sociaux, qu'on de faibles revenus. Donc ils m'ont appelé, entre-temps, pendant que j'étais dans mon logement, ils m'ont dit qu'ils avaient un logement dans le 13e arrondissement. J'ai été visité, bon, c'était très petit, c'est un 12 mètres carrés. Hein. Bon, moi, je pensais que c'était temporaire, je pensais que j'en avais pour 1 an ou 2 ans, et il s'est trouvé que... malgré que ma demande d'allô, j'étais prioritaire, qui a été faite, ils m'ont toujours pas relogé les bailleurs sociaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis encore en foyer à Doma, malheureusement, parce que là, vraiment, c'est j'ai 43 ans, j'aimerais faire ma vie, m'installer avec une femme, et dans un 12 mètres carrés où je suis à Doma, c'est pas possible, parce qu'on a le droit d'héberger une personne que 3 mois, et moi, je ne peux pas construire mon futur dans une situation dans laquelle où je suis. Je suis suivi par un psychiatre, j'ai un traitement lourd quand même à prendre, malgré tout que je suis prioritaire aussi par rapport à ma maladie. On me donne toujours rien. Donc vraiment, je m'impatiente parce que bon, les années passent et je vois qu'il n'y a rien qui est fait et je ne comprends pas qu'on soit dans une ville comme dans Paris, en France, qu'on ait une grande richesse, mais qu'il n'y a rien qui aboutit. On est toujours dans l'urgence.
Bloodsuckle and honeysuckle, a rose I would sing. Division and void, the bloodsuckle cuts the honeysuckle, a rose thou art sick. In little children's heavy heads, my dreams are wrapped while in my bed. Innocence is dripping red. In dreams I walk with you, in dreams I talk with you, in dreams you're mine. All of the time. Heads on fire and drunken lights, oh, days devoured by hungry nights. In love's secret domain, this is my love. This is my love. In love's secret domain. Sweet touches fly.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et la manif Vive l'APL, un reportage de Rémi Douat réalisé par Delphine Lemaire. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et cette semaine, notre stagiaire s'appelle Niels Beck Chaperon. Merci à tous ceux qui ont accepté de nous parler. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Twitter et une page Facebook qui vous attendent nombreux.